peux définir parfois commencer par être un peu tout seul, isolé, avec quelques questionnements sur ce qui m'entourait. C'est vrai que j'ai commencé par être végétarien avant d'être écolo, avant de connaître le milieu antispé. Moi, c'est venu plus par une sensibilisation à travers des textes dans le mouvement hardcore. J'ai rencontré le mouvement antispé quand après je suis arrivé à Lyon. C'est le même moment aussi où moi j'étais plus du côté naturaliste. Donc j'ai fait un BTA espace vert, après j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Ça fait que sur Lyon j'étais plus proche des milieux écolos, FRAPNA, des choses comme ça. Et ces milieux-là ne m'ont pas totalement convaincu ni plus dans leur manque de radicalité et dans leur façon vraiment d'aller un peu à la source des problèmes. Du coup après je suis plus allé vers les milieux écolos un peu plus militants et qui est également plus proche des milieux libertaires, l'anarchie, l'antispé. Mais maintenant, c'est vrai que même actuellement, je suis encore beaucoup plus au contact de par mon travail, des différentes associations avec qui j'ai bossé, du milieu écolo. Ça fait que je vois un peu comment fonctionne le milieu écolo et comment est-ce que les écologistes se positionnent par rapport au végétarisme et sur la question animale. Voilà, moi c'est plus un peu ça que je vais essayer de partager, c'est un peu ce témoignage dans le milieu écolo de ce que moi j'ai vécu sur les retours, le positionnement par rapport à la protection animale ou au végétarisme.
Oui, et t'as fait partie du regroupement d'opposants.
Oui, à Lyon, enfin, je suis resté pas mal de temps, je suis resté 13 ans à Lyon, donc c'est vrai que je suis passé par la FRAPNA, donc c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, donc c'est des naturalistes. Militant au ROC aussi, donc c'est le regroupement des opposants à la chasse, donc pour une opposition franche à la chasse. Bon, après, c'était les problèmes de fonctionnement, et puis également, parce que le ROC, c'est une grosse structure, donc qui est très centralisée, c'était sur Paris, en tant que groupe local, on n'avait pas vraiment de possibilité de faire ce qu'on voulait, il fallait qu'on suive les directives de Paris. J'ai également été à l'origine de la création du groupe local de Greenpeace à Lyon. J'ai vite laissé tomber parce que c'était la même chose. C'était avec Greenpeace France qui dirigeait tout, et en gros, nous, on était là pour vendre du matériel ou faire des adhésions. Donc, c'était pas très intéressant. Puis après, je suis passé comité son port, donc tout ce qui était lutte anti-autoroute, développement de la bagnole. Avec Carbusters aussi, c'était une revue qui a été créée sur Lyon il y a 5-6 ans, donc j'étais impliqué là-dedans. Une autre asso sur Lyon, Tierra Incognita, où on faisait de la sensibilisation à un problème de pollution et toxique. Comme là, j'étais plus partie prenante et que je portais plus le projet, ça m'a été plus facile pour faire passer au niveau dans le milieu écolo. Des informations sur la condition animale. Mais c'est parce que bon, le milieu écolo n'est pas toujours très ouvert. Puis sinon, après, j'ai travaillé pour Silence, pour le réseau Sortir du Nucléaire également. Et puis je suis aussi en lien avec les gens là, du journal de la décroissance, où là, il y a encore une vision un peu différente des choses. Et actuellement, là, je travaille pour une association qui est sur Paris sur la problématique des déchets ménagers principalement. Donc c'est vraiment dans un univers d'écolo, quoi. Écolo vert ou quelques autres qui viennent un peu d'autres milieux, mais c'est vraiment écolo. Et donc moi, je ne suis pas sociologue ni théoricien. C'est vraiment une sorte de témoignage que je rapporte.
Alors en fait le thème là donc cette présentation débat c'est écologie et questions animales. C'est un thème qui présente un intérêt parce qu'il y a un certain nombre de points communs entre l'écologie et la question animale. Enfin, l'écologie elle s'intéresse au domaine non humain. C'est en gros son objet, même si l'objet de l'écologie déborde ce strict cadre et pour aborder pas mal de choses. Parce que l'écologie parle de qualité de vie, parle d'environnement, environnement favorable en général aux humains, mais c'est une notion importante justement de qualité de vie et de... Voilà. Parce que l'écologie a un discours éthique qui est que nous devons collectivement et individuellement modifier nos façons de faire au nom d'intérêts qui ne sont pas que les nôtres, que ce soit les intérêts de la nature, entre guillemets, ou que ce soit les intérêts des générations futures, ou que ce soit les intérêts des humains. Bon, là, dans ce cas-là, c'est les nôtres, mais il s'agit d'un discours éthique qui est quand même global. Et aussi, évidemment, parce que les enjeux des luttes écologiques et des changements que réclame l'écologie sont des enjeux pour les animaux, souvent d'ailleurs de façon beaucoup plus directe que pour nous humains. Là, je pense, les enjeux des luttes antinucléaires, les enjeux des luttes contre les déchets, des luttes pour la préservation de biotopes, les enjeux, les luttes contre la bagnole, les luttes pour la décroissance, qui est une décroissance finalement des déchets et d'un certain nombre de nuisances qu'on produit. Et donc, on ne peut pas se désintéresser. Si on s'intéresse à la question animale et au sort des animaux, on peut difficilement se désintéresser de la question écologique. L'inverse n'est pas nécessairement juste. Alors, on a essayé de voir par un bout bien particulier la question de ces rapports entre écologie et question animale, qui est comment se positionnent les écolos sur la question de la viande. On a pris cette question-là parce que pour nous c'est une question qui nous intéresse particulièrement, et puis parce qu'elle reste quand même très emblématique de la façon d'aborder la question animale. Alors, il se trouve que ce qu'on appelle l'écologie, ça regroupe des milieux extrêmement différents. Ça va des grosses organisations telles Greenpeace, le CNID, donc le CNID c'est le Centre National d'Information Indépendante sur les déchets que dirige Jocelyn. Et il y a aussi la coordination qui regroupe 300
associations, collectifs d'associations.
Ouais. Qui sont des gros trucs. Il y a le réseau Sortir du Nucléaire qui est un réseau qui regroupe 750 associations. Bon, ce sont des grosses associations, des fédérations, des coordinations qui ont une politique à long terme, qui sont des gens qui sont ils ont une approche professionnelle, entre guillemets, hein, de l'écologie. Il y a les réseaux liés à l'écologie politique, qui sont souvent assez différents, qui eux se préoccupent très peu. Enfin, d'ailleurs, qu'il s'agisse des grandes associations de l'écologie politique, globalement, la question animale, c'est pas quelque chose qui...
Non, pour eux, la question animale, c'est plus sur la protection de la nature. Donc, biodiversité et protection des espèces ou des milieux. On reste dans une vision qui est encore anthropomorphique, puisque c'est une protection de milieux qui sont intéressants uniquement pour les activités humaines. Donc, ça va être la protection, par exemple, des marais. Pourquoi est-ce qu'on protège les marais? Parce qu'il y a énormément de zones humides qui ont disparu. Et donc, ces zones humides permettent justement de filtrer l'eau, d'avoir des réservoirs d'eau potable. Donc, on va décider de protéger un marais pour des raisons uniquement qui nous intéressent, nous. Et après, on va protéger des espèces précises, soit parce qu'on estime qu'elles sont en voie de disparition, soit on estime que c'est des espèces qui sont intéressantes encore pour un fonctionnement qui va nous permettre de continuer, nous, sur notre lancée. Et c'est vrai que ce type de protection, c'est uniquement pour un résultat, pour le développement humain. Parce que si on poussait, c'est un peu ce qu'aborde aussi François Terrasson, c'est que si on poussait vraiment la réflexion sur ces zones de protection, c'est une mise sous cloche, on crée des musées, puisqu'on bloque tout développement du milieu en se disant non, il faut que ce milieu reste comme ça, parce qu'il intéresse le développement humain s'il reste une tourbière, par exemple. Alors que qu'une tourbière, s'il n'y a pas d'intervention humaine, elle peut rester tourbière, mais ça peut également se refermer et devenir un bois, une forêt. Donc la protection de la nature, c'est uniquement par rapport à des critères qui nous intéressent. C'est pas protéger des espèces ou un cycle naturel qui pourtant rentre dans ce nous apprend en gestion de la nature. Ce cycle naturel donc on nous assène dans ces études-là, en fin de compte, c'est la première chose qu'on va bloquer quand on va vraiment faire de la protection de la nature.
Il y a les associations comme l'Europe, ou Défense des animaux sauvages, qui sont, elles, un confluent possible de l'écologie et de la question animale. Il y a les associations ou les individus ou les coordinations autres qui se battent pour la protection de sites. C'est tous des milieux qui peuvent être assez différents. Il y a ce qu'on a comptabilisé aussi dans la question, dans l'écologie, c'est tout le milieu de l'agriculture bio et tous les milieux qui tournent un peu autour. l'agriculture bio fait de l'écologie quand même une référence centrale. Lui-même est assez, le milieu de l'agriculture bio est lui-même assez, assez divisé. Il y a des trucs très différents. Bon, on y reviendra en fait. Et il y a aussi des milieux qui sont de plus en plus importants, qui sont d'une sorte d'écologie diffuse et qui sont liés très souvent à une mystique explicite, qui sont les milieux New Age par exemple, qu'on retrouve de plus en plus. Bon, tous ces milieux-là sont des milieux qui s'interpénètrent. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence nette entre ces milieux. Bon, je pense qu'on ne trouve pas beaucoup de gens New Age dans les milieux style à la direction de Greenpeace ou dans sortir du nucléaire, mais donc bon, parler de l'écologie, écologie et questions animales, c'est un petit peu difficile parce qu'on a quand même des réponses un petit peu différentes selon les milieux. Mais bon, du coup, on pourra apporter des nuances à ce qu'on va dire, quoi.
Ouais, donc moi j'ai essayé de voir un peu avec bon, déjà l'expérience, les rencontres que j'avais fait dans le milieu écolo, et puis j'ai récupéré là, une journaliste qui avait fait un questionnaire plus ciblé sur les gens qui sont dans le mouvement de la décroissance, donc voir un peu ce que ces milieux-là pensaient du végétarisme, de la protection animale. Je crois que ce qui peut entraîner ces personnes-là à devenir végétariens, actuellement il y a trois choix. Il y en a deux qui sont très très proches, c'est justement le fait qu'ils sont contre l'élevage industriel, et ça rejoint également aussi la protection de sa propre santé. Et ça, c'est les deux raisons qui sont vraiment prépondérantes dans ces milieux-là. C'est, voilà, pas d'élevage industriel, donc il y en a même qui vont dire, ben, je vais pas acheter de la viande sous cellophane. Dernièrement, il y en a un qui m'a dit aussi, c'est, ben, en gros, si on trouvait plus que de la viande d'exploitation industrielle, à ce moment-là, il ferait un boycott de viande, mais parce qu'il y aurait plus de viande bio. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très fort, c'est cet élevage industriel qui choque quand même et qui sensibilise des personnes pour devenir végétariennes ou alors pour réduire la consommation de viande. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très présent aussi, c'est qu'en fin de compte, quand on, dans ces milieux-là, quand on aborde le végétarisme, la plupart du temps, ça je pense que tout le monde l'a vécu, ça vous dit, ah oui, mais vous savez, moi c'est une fois par semaine, c'est deux fois par semaine. Là, il y en a même un qui m'a dit que par rapport à ses parents, il avait une culture viandiste et que donc c'était très dur de sortir d'une culture viandiste, mais qu'en mangeant ne serait-ce que deux fois de la viande par semaine, il se considérait comme végétarien par rapport à ses parents. Donc ça va. Donc je crois que c'est plus vers ça, vers quoi tend le milieu écolo. Donc sur ces questions donc, de boycotter l'élevage industriel, le côté santé qui va avec, hein, puisque tout ce qu'on peut, que ce soit les médicaments, les traitements qui sont donnés à ces animaux-là. Et puis actuellement, il y a un mouvement qui est en train un peu de venir, c'est plus pour réduire l'impact qu'on peut avoir sur la planète. Donc il y a eu deux ou trois articles, études qui ont été faites là-dessus. Donc quoi, justement, de devenir végétarien, ça nécessiterait moins d'énergie, moins de surface. Et donc dans l'esprit de l'écologie, c'est-à-dire bah, justement d'essayer d'avoir un minimum d'impact sur la planète, le végétarisme serait quelque chose qui permettrait d'aller vers ça. J'ai récupéré, il y avait un petit article, c'était dans le Canard, je ne sais plus trop de quand, bah, c'était début août, parce qu'on trouve qu'il y a bien un peu de tout, ça, je crois qu'il est assez parlant. Je vais vous le lire rapidement. Comment lutter contre le réchauffement de la planète? Réponse en devenant végétarien. C'est la brillante idée que vient d'exposer un physicien britannique dans Physics World, la prestigieuse revue de l'Institut de physique de Grande-Bretagne, et le scientifique de pointer du doigt les animaux de ferme responsables à eux seuls de 21% du CO2 rejeté dans l'atmosphère. Avec cet argument imparable, une réduction de la production de viande serait moins déstabilisante pour nos sociétés que d'arrêter net notre consommation de combustibles fossiles. Bref, pour sauver la planète, pas la peine de laisser son 4x4 au gazage, il suffit de zigouiller tous les cochons, peaux, poules, veaux, vaches. Donc là déjà, c'est on arrête de manger, mais on flingue tout. Hein. C'est pas des animaux qui ont un intérêt. Et puis, bon, après, on y rentre, ils finissent sur un truc un peu bâtard aussi. Et en plus, on fait d'une pierre deux coups, on réglant de manière définitive le contentieux franco-britannique sur la politique agricole commune. Bon, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Et je vois dans le milieu... milieu, par exemple, oui, des écolos, ce qui se passe avec les gens qui sont dans la revue La Décroissance actuellement, c'est sur ces arguments-là qui deviennent végétariens. Je suis avec une personne il n'y a pas longtemps, c'est quelque chose qui les fait bouger. La question de l'animal en soi, ça les intéresse très très peu. Donc on reste encore dans une situation un peu anthropomorphique, puisque là, c'est réduire les impacts sur la planète. Pourquoi réduire les impacts sur la planète? Parce que si on continue comme ça, de toute manière, c'est nous qui allons subir ces impacts-là, et le reste c'est juste une question de chaîne, mais parce que c'est nous qui allons être de plein fouet dedans. Donc c'est uniquement dans ce cadre-là, dans cet état d'esprit-là, qu'il y a cette volonté de réduire la consommation de viande. Dans ce qui peut être pour aussi, c'est ce qu'on... C'est plus de limiter la consommation, et c'est ce qui rejoint dans la question de Kant, c'est ne pas vouloir se poser un peu en cas d'espèce et gêner les relations qu'on puisse avoir avec les autres. Il y en a beaucoup qui sont dans une relation de frigane, c'est-à-dire que chez moi je mange pas de viande, mais comme c'est compliqué socialement au restaurant ou chez les gens, en fin de compte, quand il y en a ailleurs, je continue d'en manger. Dans les arguments qui sont contre, il y a bien sûr toujours le fait je suis un omnivore, donc ce qui suit là-dedans, c'est que c'est naturel de manger de la viande pour des omnivores. Puis c'est également que de manger de la viande, on n'a pas de carence alimentaire. Ici on sait que ça pose pas de problème, mais ces personnes qui vous disent ça, moi, je voudrais bien savoir ce qu'elles mangent et si elles se soucient vraiment de savoir si leur repas est équilibré, si elles n'ont pas de carence alimentaire. Parce qu'en général, on a quand même l'idée en tête, il suffit de manger un steak, on va acheter n'importe quel steak, on le met dans la poêle et ça y est, notre repas est fait. Et c'est équilibré. Donc je pense que ça tient pas énormément. Beaucoup de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas de connaissances sur le régime végétarien, donc ça les embête un peu, elles veulent plus d'informations, elles sont un peu loin de l'idée. Il y en a d'autres qui vont utiliser des arguments pour essayer de nous démontrer que le végétarisme, souvent, on n'est pas cohérent. Donc les végétaliens, bien sûr, sont beaucoup plus cohérents. Moi, je ne suis pas végétalien, hein, je suis végétarien à tendance végétalienne. Mais c'est vrai que des fois, c'est souvent chercher la petite bête pour casser un peu l'idée et se dire, mais tu vois, c'est pas cohérent, donc moi, je te suis pas parce que tout ton discours n'est pas cohérent, tu vas pas jusqu'au bout. Alors qu'ils font aucun pas, ne serait-ce que déjà pour limiter la consommation de viande, ils se servent de la petite pointe, de la petite chose qui va pas pour essayer de casser tout ça. Après, je pense qu'il y a des situations familiales. Là, une personne qui a répondu qu'elle était végétarienne, mais elle n'est plus végétarienne depuis son mariage, mais elle n'est pas allée plus loin. Donc, est-ce que c'est son concubin, concubine, ou le fait d'avoir des enfants? Ça, je ne sais pas. Il y a également l'argument, puisqu'on est, nous, on fait partie d'une civilisation, on se déplace énormément, et donc c'est se dire que c'est ne pas se fermer à la rencontre quand on part à l'étranger, quand on va en voyage. Si localement la culture culinaire est à base de poulet, de viande, de poisson, on ne va pas dire non, parce qu'il faut s'intégrer à la culture locale, qui est ça, c'est valable autant si on part à l'étranger que quand on part en France. Moi, c'était au mois de mars, donc avec le CNIL, on a organisé une réunion à Bayonne, une cinquantaine de personnes. La personne qui organisait, je lui dis, ben voilà, ça serait bien quand même si il pouvait y avoir des repas végétariens, je ne voulais pas imposer tout végétarien. Ce qu'on m'a répondu, oui, mais c'est dommage parce qu'on est dans une région à spécialité gastronomique et là, ils vont nous préparer, il va y avoir un traiteur, ça va être très très bon, donc c'est complètement stupide de vouloir des menus végétariens alors qu'on va être gâtés culinairement. Il y a vraiment cette... je ne sais pas comment dire, ce besoin de participer à une soi-disant richesse culturelle et culinaire qui inclut la viande. Après, bon, pour revenir un peu sur le milieu écolo, associatif, je pense dans les associations qui ont été citées un peu par Yves, il y a beaucoup de végétariens et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à suivre, mais il faut souvent les accompagner et leur montrer que c'est possible de bien manger, de ne pas avoir faim et de ne pas avoir de carence en étant végétarien. À Bayonne, c'est la première réunion qu'on faisait, la deuxième qu'on a fait au mois de juin qui était à Albertville, là le cuistot, tout de suite, il nous a dit écoutez, moi je ne vais pas vous faire deux menus différents, donc j'ai commencé à avoir peur. Mais non, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire un menu uniquement végétarien. Donc sur 48 heures, comme ça, c'était uniquement végétarien. Alors que la première fois, on était 4 sur 50 à demander un repas végétarien. Là, ça a été 50 personnes qui ont mangé végétarien. On n'a eu aucun retour, aucune personne est venue en nous disant ah, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, nous on veut manger de la viande, vous nous imposez un menu végétarien. Donc ce milieu-là est prêt à accepter l'idée, mais prêt également à aller vers le végétarisme, mais il faut vraiment les pousser, quoi. Donc il faut les pousser, ils attendent aussi, je pense, en fin de compte, c'est qu'on leur propose. C'est-à-dire que dans les restaurants, il y ait des plats végétariens de partout parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort. Ça les bloque d'aller dans des restaurants et de demander un repas ou un plat végétarien. Alors que bon, bah, si on va dans un restaurant, on se dit qu'il y a un cuistot. Si c'est un cuistot, il peut nous faire un plat végétarien sans problème. Le végétalien, il faut peut-être le pousser un petit peu, quoi. Je pense que si on va dans un resto, que le cuisinier nous dit non, c'est pas possible, changer de restaurant, parce que alors, je ne sais pas d'où sort votre cuisinier, mais ça doit être assez mal préparé. Voilà, donc en gros, ça, c'est un peu ce qui se passe là-dedans. Et je voulais, ce matin, j'ai assisté aussi à la conférence sur le biocentrisme. Je pense qu'il y a une séparation un peu de trois mouvements, le côté théologie, le côté anthropomorphisme, le côté biocentrisme. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de nouvelle, quelque chose qui surfe là-dessus, et où on est dans une période où tout est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont aller piocher dans le côté spiritualité, donc en prenant autant les trois monothéismes que des choses comme le bouddhisme ou une autre recherche, qu'elles vont puiser là-dedans une réponse à la vie, au créationnisme, mais qu'en même temps elles vont puiser dans l'anthropomorphisme, un côté l'utilitarisme des espèces qui sont vivantes, et que dans le biocentrisme, ça serait peut-être l'idée du respect des espèces vivantes qui serait pris, mais je ne suis pas du tout certain. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est ce qui part. Moi, je vois ça au niveau de la décroissance, où il y a quelques personnes, justement, qui sont dans un univers vraiment judéo-chrétien, à être dans des mouvements de croyances judéo-chrétiennes, qui, en même temps, sont totalement utilitaristes et qui pourtant, sont également écologistes. Donc, je pense qu'il y a des tendances là qui sont en train un peu de se mélanger et de donner naissance à une sorte de nouvelle voie qui n'est peut-être pas à suivre.
Est-ce que ça serait possible de définir brièvement l'utilitarisme, parce que c'est souvent évoqué et je ne vois pas exactement à quoi ça fait référence, ça me gêne.
Ben, je pense que, enfin, moi, comme je le prends là, c'est qu'en fin de compte, la protection, l'écologie ou la protection de l'environnement pour eux, c'est uniquement parce que ça permet à l'être humain d'avoir un environnement plus sain, une alimentation plus saine, et en même temps d'essayer de, entre guillemets, de respecter le cycle naturel, de manière à ce qu'on puisse continuer à exister sur cette planète-là. Et donc, c'est plus utiliser les ressources. La décroissance, c'est ça. La décroissance, c'est une décroissance matériel, mais on ne se repose pas la question vraiment de pourquoi est-ce qu'on consomme ça. C'est plus se dire, ben nous on est dans des sociétés où on surconsomme. Si on veut que les sociétés, les personnes qui n'ont rien à consommer actuellement arrivent à un minimum de bien-être, il faut que nous, on diminue notre consommation, et ça ne veut pas forcément dire consommer autre. C'est juste essayer soit de produire autrement. Nous, on travaille là-dessus aussi sur la problématique des déchets, c'est-à-dire économiser les ressources, économiser l'énergie, mais toujours dans un état d'esprit de se dire si c'est parce que c'est utile pour nous, c'est pour notre bien-être, et si on veut que les générations futures elles-mêmes puissent continuer à se développer et à vivre sur la planète, il faut qu'on gère ces ressources. On reste dans une idée de gestion des ressources pour le développement de l'espace humain.
C'est dans le sens utilitaire, dans le sens intéressé.
Oui, c'est très peu pour le bien-être de l'animal. Quand on se soucie du bien-être de l'animal, c'est parce que derrière, si on consomme, aussi bien la viande va être intoxiquée, ou parce que ça va dégénérer sur des, je sais pas, des problèmes environnementaux, écologiques, et qui vont après se répercuter sur notre bien-être.
D'accord. Et enfin, quand même préciser par rapport à cette question, c'est que c'est pas du tout utilitariste au sens philosophique du terme. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'idée d'utiliser autrui pour...
Oui, qui est un altruisme, en fait. Qui est un altruisme. Ce qu'on appelle l'utilitarisme en philosophie morale, c'est un altruisme.
C'est vrai, oui.
Je me souviens.
En fait, non, mais je ne sais pas si c'est Dieu.
Enfin, ah, je ne sais pas, parce que en même temps, toi, tu l'as utilisé à ta source, tu nous as expliqué comment tu l'as utilisé, mais on l'a déjà utilisé en tant que courant philosophique dans d'autres mouvements, et
je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve que c'est...
Je trouve qu'il est inapproprié quand tu l'as défini, mais...
Moi, je suis plutôt pour qu'on continue sur le sujet, parce que sinon on va se lancer dans quelque chose de tout autre. Mais bon, toujours en restant sur cette histoire de rapport à la viande comme emblématique du rapport à l'animal, en fait on aurait pu prendre aussi d'autres points de focalisation. Mais en restant là-dessus, on a l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de végétariens dans les milieux écolos que dans le reste de la population, sans en être vraiment certain. Mais en même temps, il y a des résistances très fortes. Ce qui paraît un peu étonnant si on se dit, ben, pourtant l'écologie, c'est pointer son nez en dehors de la sphère de l'espèce humaine pour aller voir ce qui se passe ailleurs et quels sont les impacts, etc. Donc ça paraît un peu étonnant qu'il n'y ait peut-être pas plus de questionnement sur la question animale. Bon, là, on a parlé de la question de la viande précisément, mais sur plein d'autres sujets. Il y a l'exemple que donnait Frank Schrafstetter, qui était venu, qui a parlé de l'expérimentation animale, et qui disait que, par rapport au projet REACH, qui est un projet européen de faire expérimenter sur animaux près de 100 000 substances synthétisées pour refaire les tests, en fait, ou pour les faire quand ils n'ont pas eu lieu. Il y a une opposition donc de Greenpeace à ce projet-là, et il a réussi à obtenir que Greenpeace dise que donc elle s'opposait à ce projet. Il n'y a pas opposition. Non, Greenpeace soutient le projet REACH en considérant que c'est extrêmement important d'arriver à évaluer la toxicité de toutes ces substances-là qu'on retrouve de partout. Donc Franck, qui faisait partie du comité qui s'occupe des problèmes d'expertise toxicologique de ces produits, a réussi à obtenir que Greenpeace déclare qu'il souhaitait que ces tests ne soient pas faits à l'aide de l'expérimentation animale. Mais c'est sûr, il a obtenu ça, non pas sur des considérations directes de prise en compte des intérêts des animaux qui seraient alors sacrifiés, mais sur des considérations de falsifiabilité des expérimentations menées sur l'animal. Donc, a priori, Greenpeace n'aurait pas pris une décision de faire une déclaration en disant qu'ils ne veulent pas d'expérimentation animale sur une base éthique liée à l'animal. Alors, la raison pour laquelle, les raisons, enfin des pistes de pourquoi il y a quand même finalement si peu d'intérêt de la part des écolos pour la question animale. En général, il y a des contre-exemples. Guy, a priori, est venu par une sorte d'écologie à la question animale. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part parce que l'écologie est très marquée par l'anthropocentrisme. Une bonne part de l'écologie, c'est une écologie au profit des humains. C'est pour notre bien à nous, pour le bien des générations futures. Une autre raison qu'on pourrait penser contradictoire, mais qui ne l'est pas entièrement, parce qu'en fait les deux coexistent, c'est non pas parce que l'écologie est anthropocentrique, mais parce que dans bien des cas elle est écocentrique. C'est-à-dire que le raisonnement se fait non plus par rapport à l'humanité, mais par rapport à la nature. Mais la nature prit comme une sorte de totalité, d'ordre naturel, où chaque chose a sa place, est complètement fonctionnalisé, c'est-à-dire les animaux sont réduits à être des rouages de l'ordre, et ils n'existent, ils n'ont d'intérêt, ils n'ont d'importance qu'en tant que la fonction qu'ils remplissent dans cet ordre est importante. C'est ce que, par exemple, moi j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que, oui, il y a un ordre, chaque chose a sa place, et finalement, les choses qui font partie de la nature perdent toute importance propre, pour n'acquérir qu'une importance relative à la totalité. Et ça, c'est assez net dans les discours écolo sur les animaux, par exemple les animaux sauvages ou les animaux en général, en fait. Leur subjectivité, ce qu'ils peuvent ressentir, disparaît et n'est pris en compte que leur importance écologique, style leur fonction dans les écosystèmes, etc. Avec l'idée, en plus, qu'il y a une harmonie globale qui a un rapport que moi je considère comme assez mystique et qu'on retrouve en fait accentué dans les milieux explicitement mystiques, comme les milieux New Age, ce qui explique la conjonction qu'il y a souvent entre milieu écolo et New Age. Il y a peut-être une autre piste de réflexion, c'est le fait que l'écologie, du fait qu'elle se polarise donc sur la question de la nature, est souvent un refus de la modernité. C'est-à-dire que ça sert comme une sorte de socle sur lequel s'appuyer pour critiquer la modernité. Et je pense qu'on peut expliquer certains refus, enfin, ça génère une certaine sensibilité qu'on retrouve dans le milieu écolo, et qui est une sensibilité de refus de la modernité ou de certains aspects de la modernité, parce que c'est pas nécessairement très cohérent, et que ça peut expliquer que, par ailleurs, certains milieux écolos, par contre, vont être relativement opposés à l'expérimentation animale, qui vont associer à la science, et à la science un peu démoniaque moderne, ou qu'ils vont être opposés tout particulièrement aux élevages intensifs, hein, mais vont avoir envie d'un retour à un élevage traditionnel. Souvent, ça passe par l'idée d'un retour à l'élevage bio, alors que la bio ne se soucie pas, sauf souvent dans la propagande, mais se soucie très peu du bien-être animal. Il y a des élevages bio qui sont des élevages concentrationnaires, c'est particulièrement pour les œufs de poules bio, par exemple. Les labels bio, par exemple, ne fixent pas non plus de limite au transport, à la durée de transport des animaux, contrairement à certains labels, comme le label rouge, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau du souci du bien-être animal, les bio sont en retard sur d'autres franges de l'exploitation animale. Je donne quelques exemples sur la bio, mais c'est à titre indicatif, mais les intrants, les engrais, par exemple, utilisés en bio, c'est très souvent des sous-produits des abattoirs. La corne pilée, des plumes concassées, du sang séché, c'est vraiment très fréquent. Ou à d'autres niveaux, c'est pas du tout des considérations de... Je ne sais pas du tout si les insectes souffrent ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas une question que se pose la bio. Il y a des insecticides qui vont être utilisés de préférence parce qu'ils sont bio, alors qu'ils font plus de dégâts que des insecticides de synthèse qui sont plus ciblés. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était la roténone, par exemple, qui... Non. Oh, non, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a des insecticides qui vont être utilisés en bio, qui sont des insecticides dits naturels, mais qui ont un spectre d'action très large et qui vont faire plus de dégâts, au moins à court terme. Pour ce qui est d'une analyse globale, ça, j'en sais rien. Et qui vont toucher plus d'espèces que des insecticides ciblés. Bon, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui font que l'assimilation de la bio à plus de bien-être animal, c'est pas quelque chose qui va de soi. Mais en fait, ça, c'était un peu une parenthèse. Mais je pense que c'est lié un peu à ce refus de la modernité. Souvent, les gens vont refuser l'élevage intensif et avoir dans l'idée une sorte d'âge idyllique de l'élevage traditionnel, fermier, à petite échelle, etc. Ce qui permet en même temps de refuser une condamnation du spécisme. C'est-à-dire qu'on dit on ne veut pas d'un spécisme brutal, comme l'est celui de l'exploitation de masse, l'exploitation industrielle, mais on veut garder le rapport spéciste à l'animal au sens d'être prêt à le faire tuer pour s'en nourrir, etc. Ça, c'est un peu des pistes que je lance sur par rapport à cette question de pourquoi les écolos finalement se sentent relativement peu concernés par la question du bien-être animal. Sinon, assez rapidement, on voulait aborder la question de pistes, par contre, sur comment faire évoluer, enfin, l'évolution vers une écologie qui serait une écologie au profit de tous les êtres sensibles et non pas une écologie uniquement au profit des humains ou une écologie qui se réfère uniquement à une entité abstraite comme la nature. Alors, l'écologie, elle a un petit peu, enfin le mouvement écologiste, il se situe un peu sur deux plans. Éviter de nuire, à l'heure actuelle, il s'agit d'éviter de nuire à l'environnement, avec très souvent l'arrière-plan, c'est parce que sinon nous, on va finir par en pâtir. Et ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'il y ait une évolution qui se fasse vers l'idée de, il faut éviter de nuire à l'environnement, parce que à cause de tous les êtres qui peuvent souffrir de ces nuisances-là, et non plus seulement les seuls humains. Par exemple, quand on a fait la brochure poisson, et c'est Jocelyn qui avait travaillé sur la question des impacts nuisibles des activités humaines, on avait essayé de faire un récapitulatif, d'ailleurs qui n'est pas exhaustif, mais des nuisances que nos comportements quotidiens et collectifs impliquent pour les poissons. Et en fait, on n'a pas parlé des nuisances que... Enfin, on n'a parlé que pour les seuls poissons. C'est-à-dire que l'écologie, ça peut être ça, c'est regarder les nuisances de nos activités pour les individus sensibles, pour eux-mêmes, quoi. Ça, c'est une chose. On peut retrouver... Là, il y a des amis qui vont venir de Lyon, normalement, aujourd'hui, qui doivent amener des dépliants sur la gestion des déchets nucléaires. Et je leur ai demandé donc d'en amener pas mal pour pouvoir en distribuer. Parce que je trouve que ça illustre bien le fait que les enjeux écolos sont des enjeux qui touchent justement pas que les humains, qui touchent pas que la nature en tant que chose abstraite, mais qui touchent vraiment des êtres sensibles. La gestion des déchets nucléaires, ça va être un problème qui va se poser pour des dizaines de millions d'années. Et qui, si ça aboutit à des catastrophes, sont des catastrophes qui vont toucher des myriades d'individus sensibles qui risquent d'en pâtir dans des souffrances pas possibles, et ça pendant des millions d'années, quoi. Donc c'est un problème à ce niveau-là pour qui se préoccupe du bien-être et de la souffrance d'individus sensibles, qui est un problème qui est considérable. Et bien, bon, malheureusement, ce tract sur les déchets, il n'aborde pas cette question-là. Il l'aborde qu'en termes généraux. Cette question des souffrances possibles, gigantesques, que ça peut poser si c'est mal géré, et on voit mal comment ça pourrait être bien géré, mais ça, si vous avez le tract, vous verrez l'exposé du problème, c'est pas abordé. Ça peut sûrement pas l'être dans leur optique pour l'instant, mais vraisemblablement, ça vaut le coup d'essayer de peser pour que, à l'avenir, ça se soit rendu possible d'aborder ce type de problématique dans les problématiques écologistes. Et une autre piste par rapport à une transformation de l'écologie, il me semble, c'est une autre chose pour laquelle se bat l'écologie. On a parlé de qualité de la vie. Et ben, c'est non seulement d'éviter de nuire, c'est non seulement réduire les nuisances, mais c'est aussi améliorer les conditions d'existence. Alors, à l'heure actuelle, le discours écolo, c'est un discours qui ne parle d'améliorer les conditions d'existence que des seuls humains, mais il serait tout autant fondé à parler de tenter d'améliorer les conditions d'existence aussi de l'ensemble des êtres qui pâtissent quand ils ont des mauvaises conditions d'existence, qui en souffrent. Je ne sais pas, moi, je pense... À l'heure actuelle, il y a des barrages qui ont été construits sur des cours d'eau. Il y a des retenues d'eau, et en cas de sécheresse, ça vient à l'idée de personne de laisser passer de l'eau pour que les êtres qui vivent dans le milieu aquatique puissent survivre. Il me semble que ça, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait rentrer dans une optique globale. À l'heure actuelle, on vide les retenues des barrages pour la culture du maïs, quoi. Mais c'est tout. Mais bon, ça, c'est des vues à un peu long terme, mais c'est des indications de changement de ce que pourrait être l'écologie, il me semble. Ça, c'est quelques pistes qu'on voulait donner, mais parce que ce qu'on voulait faire, c'était pas nécessairement apporter des réponses. c'était plutôt lancer des pistes de débat sur cette question-là, sur les rapports entre écologie et question animale. Hein, tu veux rajouter des choses ? Et bien, à vous la parole. Hein. Enfin, si vous voulez qu'on développe des points ou qu'on en reprécise, ou n'hésitez pas. Hein. On a peut-être été trop rapide dans notre désir d'être rapide. Oui. C'était dans une optique précise, c'est que moi, mon idée personnelle, ce vers quoi je voudrais tendre, ce serait une écologie non spéciste, mais j'aurais tendance à l'appeler un environnementalisme non spéciste, au sens où c'est quelque chose d'un petit peu complexe, mais ça serait se soucier dans une optique de qualité de vie des êtres sensibles, ça serait soucier de l'environnement de tous les êtres sensibles. Mais à l'heure actuelle, quand on parle d'environnement, c'est l'environnement des humains. C'est-à-dire c'est anthropocentré, notre environnement, c'est tout. Mais ça serait un environnementalisme non spéciste, ça serait un environnement, on parlerait de l'environnement des rats, qui peut très bien être la ville, par exemple. Mais du point de vue des rats. Et c'est... Personnellement, moi, c'est vrai que c'est une vision que j'aime bien de... Parce qu'à chaque fois, ça centre sur l'individu sensible. C'est son environnement et c'est par rapport à lui qu'il faut le voir.
Alors, il y a plusieurs environnements.
Alors, il y a plein d'environnements, oui. Ça complique beaucoup les choses, ça, par contre. Ça complique énormément les choses.
Très complexe.
Vous êtes
en écoutant parce qu'on n'entend rien.
La dame disait que c'était très compliqué.
Très complexe.
Oui, très complexe.
Complexe.
Mais donc, dans l'ensemble, alors, c'est quoi la sensibilité plus importante des écologistes vis-à-vis de l'animal? C'est quoi qui ressort le plus par rapport à tous les positionnements qui ont été pris en compte?
Et c'est plus réduire une partie de la souffrance, mais sans vouloir complètement sortir de l'alimentation carnée.
Pour ce qui est de ça.
Donc ça peut être autant sur les transports que sur un élevage moins intensif, des choses comme ça, mais c'est surtout pas virer la viande de l'alimentation. Enfin, en même temps, là, il y a ça chez les écolos, mais j'ai l'impression que maintenant, cette question-là commence à être abordée aussi par des personnes qui ne sont pas du tout dans des mouvances écolos ou militantes. Là, moi, ça fait 2 mois où je suis en colocation, je suis arrivé, 2 personnes que je ne connaissais pas du tout. Je ne les ai pas braquées, mais par contre, elles ont eu un certain intérêt. Et je ne me suis pas retrouvé il y a 10 années, dès que j'en parlais, c'était, voilà, sauter de moi, enfin, c'était des réflexions assez, assez virulentes, assez agressives. Et là, maintenant, alors que des personnes qui ne sont pas du tout dedans, il y avait un intérêt. C'était, bon, ben, pourquoi? Et après, oui, mais comment? Et donc j'ai vraiment l'impression que l'idée maintenant est là, quoi. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais c'est quelque chose qui est moins, enfin qui est plus connu, qui n'est pas encore vraiment au quotidien, les gens le mettent en application, mais c'est pas quelque chose sur lesquels qui vont rejeter obligatoirement, ou qui vont ridiculiser obligatoirement. Ça fait un peu son chemin, mais c'est pas pour ça que ces personnes-là vont devenir végétariennes. Mais elles s'y intéressent, elles veulent comprendre pourquoi est-ce qu'on peut devenir végétarien.
Qu'est-on prêt à faire pour ça? Est-ce qu'on va leur continuer à bouffer tout leur territoire, leur laisser, je crois que c'est 0,08% du territoire des zones sauvages en France, c'est-à-dire peau de chagrin. Donc si on a ce souci-là, puisque nous sommes un animal qui a conscience de cet état de fait, il va bien falloir ouvrir les yeux sur notre propre démographie, si on veut leur laisser un petit bout de territoire quand même. Donc là où ça va devenir compliqué, c'est quel est le bon équilibre. Bon, on n'est pas obligé d'approfondir ça, mais...
Ça a des grands problèmes aujourd'hui.
Ça se retrouve aujourd'hui, problème de démographie et population, hein, parce qu'on voit même dans les réserves naturelles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des plans de chasse. Parce qu'ils estiment que telle espèce, à partir de tel nombre d'individus, ça peut soit avoir des répercussions sur les cultures aux alentours ou détruire des cultures. Et là, il y a des plans de chasse, et donc on est déjà, non seulement on a segmenté, on a tout réduit, mais on est déjà dans une situation où de toute manière, il y a une barrière qui est franche. Là, c'est l'espace naturel, mais même l'espace naturel, même cet espace-là, de toute manière, il est encore géré par l'être humain qui décide du nombre d'animaux qui ont le droit de vivre sur cet espace-là. Pas pour les insectes. Mais ça se voit surtout pour les...
Ça va même plus loin, puisque même dans les parcs nationaux, on autorise des battues, notamment des battues au loup. Et puis de toute façon, les quotas dans les plans de chasse, parce que vous savez peut-être, les chasseurs ne tuent plus, ils les gèrent maintenant. Ils les gèrent. Donc ils incluent dans leur calcul les populations du parc national.
Mais on est, vous savez, dans beaucoup de cas, le milieu écolo n'est pas très loin des chasseurs. Hein. Puisque le mouvement de protection de la nature, c'est quoi? De toute manière, voilà, c'est mettre en place une zone qu'on va protéger, mais ça veut dire également gérer les espèces qui sont dessus. Donc, c'est se dire, bah non, cette espèce-là, à la limite, elle n'est pas intéressante, on s'en fout, elle peut crever. Celle-là, elle nous intéresse, on va tout faire pour qu'elle se développe. Et puis à côté, c'est se dire aussi, bah voilà, il faut gérer la population qui est là, et donc on va décider d'abattre tant de... On a vraiment là-dedans déjà.
Quand on a introduit pas le mouflon, par exemple, dans le Mercantour, il n'y a rien à faire dans le Mercantour, le mouflon, il peut les adapter au Mercantour, il vient de Corse, on l'a revu, hein. Enfin, on se permet des choses, on se permet des choses incroyables, quoi. Ça m'indigne profondément.
Mais si le mouflon est heureux dans le Mercantour et qu'il ne cause pas de ravages pour autrui, c'est pas nécessairement un problème.
Chaque fois que l'homme intervient sur la faune, c'est de l'anthropocentrisme, hein, d'une façon ou d'une autre. Introduire le mouflon, qui est un mouton ensauvagé corse, l'introduire dans le Mercantour, c'est une faute. Il n'est pas adapté à la mer profonde, c'est une erreur.
Comme je connais parfaitement le sujet du mouflon dans le Mercantour, il faut savoir qu'il n'y était pas à l'origine. Il a été introduit dans un seul et unique but, c'est de former des populations pour les chasseurs. C'est le but unique. Bon, il se trouve que où ils sont gourés, les chasseurs. Si on oublie le côté sensibilité envers l'animal, où ils sont trompés, c'est qu'ils ont introduit des souches qu'ils ne connaissaient pas, le loup. Et si on se place du côté du loup, c'est une aubaine. Ça a d'ailleurs été la porte d'entrée principale dans le Mercantour de l'arrivée des loups italiens. Il s'est retrouvé face à un animal qui était très très facile à capturer. Moi qui ai bien étudié le mouflon, on sort peut-être un peu du sujet, mais je vais essayer de résumer en 30 secondes. Ce qui est intéressant, si on se place dans le comportement du mouflon, moi je suis sidéré par la vitesse à laquelle il s'est adapté. Je peux vous jurer qu'il y a encore 10 ans de ça, on prenait en photo du mouflon à 30 mètres sans problème. Maintenant, c'est redevenu un animal hyper sauvage depuis qu'il a le loup aux fesses, quoi. Donc il y a une sorte d'adaptation, il vient de connaître le loup depuis quelques années, et il est en train de s'adapter. Les populations ont vachement baissé. Il y a même certains naturalistes qui se frottaient les mains, qui vont dire « chouette, il n'y en aura plus un seul ». Si, si. Donc on a affaire à une espèce qui est en train de s'adapter au nouveau venu qu'est le loup. Voilà.
La nourriture du loup, dans la nourriture du loup, le mouflon est passé de 70% dans les années 93, 94, 95, à moins de 15% dans les années 2000.
C'est ça.
C'est bon ?
Oui.
Il y a un point qui me semble assez symbolique des contradictions qu'il peut y avoir entre point de vue centré sur les intérêts des animaux, des êtres sensibles, et point de vue centré sur disons, les intérêts entre guillemets, hein, c'est moi qui m'ai utilisé, de la nature ou de l'écosystème, c'est la question de la réintroduction des loups, ou des ours, qui est une revendication constante des écologistes des écologistes tels qu'ils existent aujourd'hui pour dire qu'il faut réintroduire les loups et les ours avec différents arguments, mais par exemple avec l'argument ils ont toujours été là, donc il faut qu'ils soient là, ils ont des arguments en fait qui ne sont, comme on a dit, qui sont très très rarement des arguments d'intérêt des animaux. C'est, on ne dit pas qu'il faut introduire les loups parce que les loups seraient heureux d'être dans tel endroit, ou parce que les loups rendraient heureux les mouflons. Quand il s'agit des plans de destruction des loups mis en place par le ministère ou réclamés par les éleveurs, là on peut voir une certaine convergence avec les intérêts des animaux, dans le sens que effectivement un loup qui est tué, c'est contraire à son intérêt, et que ça peut révolter un antispéciste, quelqu'un qui s'intéresse aux intérêts des animaux, de voir qu'on tue un être sensible comme ça. Mais en même temps, même là-dedans, quelqu'un qui s'intéresse aux intérêts des animaux peut difficilement ne pas se sentir, là pour le coup, paradoxalement, peut-être un petit peu une convergence avec les éleveurs qui constatent leurs troupeaux de centaines, de dizaines, de centaines d'animaux morts le matin, égorgés, souvent dans des souffrances qu'on peut imaginer assez grandes, et que ça ne fait pas des manifestations. Et moi, personnellement, ma position, elle est que je suis totalement contre la réintroduction des prédateurs, qu'à la limite, je préférerais qu'il y ait des... si on considérait comme nécessaire de réguler les populations d'espèces herbivores qui croissent trop, je préférerais encore qu'on le fasse par des balles en plomb que par les crocs des loups, qui, à mon avis, sont... souvent loin d'être la méthode de l'abattage la plus indolore pour ces animaux-là. Là, j'ai du mal à savoir exactement quelle position prendre, dans le sens que, comme je disais, par rapport aux manifestations pour sauver le loup, c'est clair qu'il y a une part de sympathie pour les animaux qui rentre là-dedans, tout comme dans l'opposition écologiste à la chasse, il y a une part de sympathie qui, à mon avis, est souvent tue par les personnes qui en parlent, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une...
À vous d'aimer les animaux.
Oui, voilà, c'est-à-dire que je, enfin moi, quand j'étais écologiste et que je me sentais opposé à la chasse, je n'osais pas me sentir vraiment opposé à la chasse parce que je mangeais encore de la viande. Je voyais là une contradiction, mais je peux dire que la contradiction, je la voyais simplement parce qu'effectivement, mon opposition à la chasse, elle venait de la sympathie pour les animaux. Mais dans ces conditions-là, je ne pouvais pas exprimer cette sympathie-là pour les animaux. Et j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler, un écologiste qui parle de l'opposition à la chasse, on parle de tous les arguments autres que la sympathie pour les animaux, alors que je pense que le fond de l'opposition, disons, populaire à la chasse, de la part des écologistes, c'est vraiment... ces gens-là, ils vont dans la campagne, ils tuent les animaux... ils n'ont aucune pitié pour le lapin a envie de vivre, etc. Après, on avance des arguments écologistes sur la disparition des espèces, etc. Mais pour moi, c'est un prétexte. Mais il reste quand même que par rapport à des questions du style réintroduction des loups, je ne vois aucune utilité à réintroduire les loups. En général, les populations herbivores du coin ne sont pas dans un état nécessitant, ne sont pas en surpopulation. Il y a ce que je considère comme une légende qui est la nécessité absolue pour toute population herbivore d'avoir un prédateur. Se demande pourquoi ce serait une loi absolue de la nature qui est un prédateur pour toute population. Parce que dans ce cas-là, on se demande pourquoi il n'y a pas un prédateur pour les loups. Les loups, ils sont pas prédateurs.
Ça, c'est un discours amusant. Mais je suis obligé d'entendre dire qu'on a une
droite. C'est quelque chose qui se répète tout le temps. Cette idée, avec ce que j'ai dit l'autre jour, avec quelques exemples isolés, mais je pense qu'à ce niveau-là, tous les cas de figure existent dans la nature. Je veux dire qu'il n'y a pas une règle générale qui serait valable autant pour les pucerons par rapport aux coccinelles que pour les mouflons par rapport aux loups. Quoi. Je veux dire, c'est des situations totalement différentes et que par ailleurs, je pense qu'il y a des méthodes de régulation des populations quand c'est nécessaire, qui ont déjà été mises au point. D'ailleurs, il y a des mises au point, des techniques mises au point pour la régulation de populations herbivores, par exemple par la stérilisation, par des vaccins antispermatozoïdes qui permettent de vacciner les femelles pour qu'elles ne puissent plus être fécondées par les mâles, enfin, qu'elles rejettent les spermatozoïdes des mâles. Et qui permet de limiter la fertilité des populations sans imposer la souffrance et la mort qu'impose la réintroduction de populations de prédateurs qu'on va chercher ailleurs, souvent avec des transports ces animaux n'ont même pas envie d'être déplacés. Alors, il n'y a aucun respect là-dedans pour les intérêts des prédateurs en question, ni pour les intérêts des animaux froids.
Voilà. Donc sur la question de la réintroduction, moi, je suis assez d'accord. Sur la question de se dire que le loup, bon, il n'est pas forcément réintroduit, s'attaque aux élevages de moutons. Je comprends tout à fait. Mais dans l'absolu, en étant végétarien, militant, anti-spé, je me dis que ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus d'élevage de moutons.
Voilà.
Et donc à ce moment-là, si le loup, comme celui qui arrive dans les Alpes, n'est pas réintroduit, il est remonté sans qu'il y ait vraiment besoin de réintroduction, à ce moment-là, après, son arrivée n'a pas été déclenchée par l'homme et il ne s'attaque pas à des moutons qui proviennent d'élevage. Il y aura certainement encore la question de se dire bah, où est-ce que c'est mieux que ce soit le loup, parce qu'il y aura certainement encore des plans de chasse. Donc pour limiter, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le loup, comme tu dis, qui tue de façon violente certains animaux, ou est-ce que ce sera justement à l'homme avec une balle de se dire bah, voilà, là il y a une surpopulation en ci ou en ça, il faut faire quelque chose. C'est la question, oui, actuellement il y a le problème de l'élevage, et pour lui c'est pas béni.
Qui voulait parler avant, en fait.
Ouais. C'est là, il y avait monsieur qui avait. Non, je sais pas, il y avait le gouvernement quand même.
Oui, mais.
Il essayait de faire court parce que là, il soulève des trucs. Il part dans des choses d'abord qui sont fausses. Il donne son avis personnel. La première chose qui est fausse, c'est que le loup n'a jamais été réintroduit en France. Il faut arrêter cette connerie-là. Ce prédateur n'a jamais été réintroduit. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. La seule porte ouverte, c'était les populations de mouflons. C'est le premier animal froid qui a attiré le loup. Donc des loups viennent d'Italie. Et donc ils sont arrivés tout seuls dans Mercantour. Deuxième problème que peut-être Daniel ne comprend pas, c'est qu'il ne peut pas y avoir prédateur du loup puisqu'il se trouve en bout d'une chaîne alimentaire. Donc il a forcément besoin d'un potentiel proie. Et s'il y a, je sais pas, 100 mouflons, ça fera vivre 2 loups, pas 3. C'est pas possible. C'est bien pour ça que tous les prédateurs en haut de la chaîne migrent et trouvent d'autres territoires. C'est le cas typique du loup qui, en 10 ans, est monté jusqu'en Suisse, etc. Bon, là, on est en train de faire du naturalisme. D'accord. Deuxième chose, la réintroduction de l'ours. Là, c'est vrai, on prend des individus des pays de l'Est. Il y a quand même un petit bémol, c'est que pour moi, l'ours n'est pas un prédateur, pour la bonne raison qu'il est 85% végétarien. C'est un opportuniste côté viande. Alors, c'est même 2 ans, des fois, sans bouffer de la viande. Donc, moi, je ne le considère pas tout à fait comme un prédateur. Il y a une troisième chose qui me paraît intéressante, et là, je le rejoins, c'est le côté sympathique. Parce que, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler hier, puisque c'était prévu dans mon petit programme, c'est est-ce qu'on va pouvoir survivre, nous, s'il n'y avait pas d'animaux sauvages ? Je vous la fais très courte, je vous aurais répondu oui, et d'ailleurs on est en plein dedans et on continue. Donc il n'y aura plus d'animaux sauvages, mais il n'y aura aussi plus d'individus comme moi, parce que je serai un des premiers à me suicider. Vous continueriez sans moi, parce que moi, désolé, j'aime les ours, j'aime les loups, j'aime les loups, j'aime les fleurs royales, j'aime les chiens, les chats, tous. Et je ne me permets pas de juger la prédation naturelle, puisque c'est un mot qui vous gêne, là, les antispécistes, et je ne me permets pas de juger la prédation naturelle. Désolé, je suis à la fois un petit peu naturaliste peut-être dans mon discours, mais vous avez peut-être remarqué que je suis un naturaliste un petit peu différent. Je suis un naturaliste qui va avec ses tripes, non pas avec les bottes, les quotas, les machins. Donc, ben, ça me semble logique ce que je dis. Dites-moi si je me trompe.
Moi, je veux donc affirmer que le loup n'a jamais été réintroduit en France. La meilleure preuve, on a eu l'an dernier. En mars 2004, un jeune loup blessé sur une autoroute au nord de Florence a été soigné, réparé, et on l'a relâché avec un collier émetteur. En 6 mois, il a franchi 700 km, 6 fois une autoroute, il s'est promené au nord de Gênes, et il a pénétré dans le Mercantour, comme le premier couple qu'on a vu arriver en 92. Alors pourquoi le loup est revenu tout seul dans le Mercantour ? Parce qu'il y a une déprise de l'agriculture et que le loup a trouvé sa niche écologique dans le Mercantour. Et pourquoi il continue à progresser et qu'il arrive dans le Jura ? Parce qu'il y a des... Et plus les bergers tueront de loups à Belzone, hein, et plus on aura des arrivées de loups d'Italie à travers la frontière, parce qu'on libérera une niche écologique. Et au contraire, enfin, c'est sciemment qu'ils le font, je ne sais pas, tuer des loups et empêcher, comme on voyait en 98, j'avais la preuve que par des indices de présence qu'il y avait l'installation de deux meutes en nord Belzone et en sud Savoie, eh bien ces loups ne se sont pas, là, ces meutes ne se sont pas installées parce que les loups ont été braconnés. Et au lieu de ça, tous les ans, on a des jeunes loups en recherche de territoire qui viennent du versant italien, parce que le versant italien du Mont-Cenis est une région où il y a beaucoup de cerfs, qui est la proie du loup la plus généralisée dans l'Europe centrale. Et ces loups, il n'y a pas d'élevage italien, ou très peu, en tout cas ils sont gardés. Ces jeunes loups continuent à venir chez nous. Et là, ce sont des prédateurs du bétail beaucoup plus redoutables parce qu'ils ne sont pas organisés pour chasser. Maintenant, je veux dire encore autre chose. Les loups qui s'installent dans le Mercantour, le couple de loups qui s'installent, et ça a été étudié de très près par Marie-Lazarine Poul, ils s'installent sur 250 à 300 km². Aucun d'entre nous n'a le droit de pénétrer sur leur territoire. Les meutes au maximum, combien pas mal de ratonnage, elles tournent entre 2 et 7. Mais on sait très bien qu'un super prédateur à des naissances, d'abord, il n'y a qu'une louve reproductrice dans la meute. Voilà pourquoi le superprédateur n'a pas de prédateur. Et il régule ses naissances. Alors, je veux donner encore un autre exemple. Depuis le début des années 80, on étudie les loups dans une île qui s'appelle l'île Royale, qui est située sur le lac supérieur entre le Canada et les États-Unis. Cette île fait 554 km². Elle est reliée à la Terre une fois ou deux par siècle, car les hivers sont très rudes, parce que des animaux peuvent passer depuis la terre ferme. Au début, dans les années 20, 30 et 40, il y avait une population d'élans qui mettait à mal et la végétation, et en particulier les jeunes pousses de, je ne sais plus quel est le conifère qui pousse à cet endroit-là. Au début des années 50, un nouvel hiver plus froid, il est passé un couple de loups, et naturellement, tout le monde a dit comme monsieur, fini les cerfs, on ne pourra plus chasser sur l'île Royale, on n'aura plus de cerfs. Depuis 1950, le meilleur connaisseur du loup, David Mich, étudie cette population de loups. On n'a jamais eu plus de 25 loups. Ça tourne entre 20 et 25. La population d'élan qui était passée à plus de 4 500, je crois, est redescendue autour de 1 500. La forêt se porte bien, les élans se portent bien. Les années, les Américains ont même mis, comme ils aiment faire, en équation l'indice, on appelle ça l'indice d'humidité sur l'Atlantique Nord. Quand les hivers sont secs et froid en Europe, ils sont plutôt chauds et humides, enfin doux et humides au Canada. Les épaisseurs de neige sont supérieures. La chasse du loup est favorisée, il y a moins d'élan l'année d'après. Le printemps suivant, il y a moins de naissances de loups. Et depuis plus d'un demi-siècle, l'écologie de cette île se porte parfaitement bien. Je peux vous en donner un autre. Il y a moins de 20 ans, le loup a été réintroduit dans le parc de Yellowstone. Depuis que le loup est réintroduit dans le parc du Yellowstone, la faune se porte beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de coyotes qui chassaient en meute importante. Ils ont fragmenté les meutes. Et il y a beaucoup d'espèces végétales qui commencent à réapparaître parce que les élans sont moins nombreux pour les brouter. Voilà comment ça se passe dans un écosystème équilibré. Et je rajoute que si on est pour le loup dans le Mercantour, et pas seulement dans le Mercantour, parce qu'il y a longtemps qu'il a franchi la vallée du Rhône et qu'il y a trois loups d'origine italienne qui sont quelque part dans l'Ariège, et je vous défie bien d'attraper des loups pour les réintroduire, italiens, pour les réintroduire en France, parce que chaque fois qu'on voit des loups écrasés sur une route, comme on l'a vu dans le Cantal en 98, ou comme on l'a vu dans le Puy-de-Dôme en 99, c'est chaque fois des loups d'origine italienne. Or, dans les parcs par là autour, vous pouvez chercher des loups d'origine italienne, il n'y en a aucun. Et la population de loups italiens a été isolée suffisamment longtemps pour qu'on puisse les reconnaître génétiquement de façon formelle. Donc là, vous pouvez être tranquille. Et être pour les loups, c'est être contre les chasseurs, parce que quand la régulation des sangliers ou des chevaux, il se fera par des prédateurs naturels, on n'aura pas besoin d'invoquer les chasseurs pour tuer les ongulés.
Il faut les régulateurs, ces chasseurs.
Et vous savez, quand vous faites, moi je fais les comptages des chamois dans le Mercantour avec des chasseurs, malheureusement, parce qu'ils sont là, parce qu'on compte, comme a dit monsieur tout à l'heure, on compte la population de la zone centrale du parc pour établir les plans de chasse des communes environnantes. Mais depuis qu'il y a le loup, eh bien, on sait, quand on fait les contacts de chamois, qu'on ne trouve plus des troupeaux de 50 ou 60 chamois, on trouve des petits troupeaux de 10 ou 12 depuis qu'il y a la présence du loup, et l'écologie se porte beaucoup mieux.
Dominique, tu voulais parler ?
Je crois qu'il y a une incompréhension de l'histoire de David qui a, enfin, je crois qu'il exprimait une position qui est une position de principe et sur une personne indépendante du fait de savoir si les loups du Mercantour avaient été cas général de réintroduction de prédateurs dans des lieux d'où ils ont disparu, le fait que le loup du Mercantour n'ait pas été réintroduit, ou le fait que le loup sera à 5% végétarien, c'est pas une réponse pertinente. Prendre le cas du lynx en Alsace, par exemple, qui là pour le coup est un animal qui a été réintroduit et qui a un impact sur les champs. Et puis je suis assez frappé, à chaque session des estivales, on a un peu ces débats polémiques qui sont un peu récurrents chaque année, mais je suis assez frappé de la vénération qu'on peut avoir pour la prédation, surtout lorsqu'on n'est pas beaucoup concerné. Il y a quelques jours, David a parlé par exemple. Du fait qu'il lorsqu'il arrivait tout droit, qu'il interdisait à ses chats d'exercer une prédation sur les souris. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne pouvait pas juger la prédation. Ce qui fait que le phénomène de la prédation serait à l'abri de notre regard critique. Les gens qui ont des hamsters ont un discours assez différent sur la prédation par rapport aux gens qui ont des chats et qui laissent leurs chats chasser des souris. Bon voilà, c'est une question que je trouve troublante.
Oui, ben, tout simplement, je renvoie la question que l'on juge la prédation, pourquoi pas, mais à quel niveau? À quel niveau? La petite mésange, c'est une prédatrice des petites chenilles. La petite chenille, c'est une prédatrice de l'herbe. À quel niveau on arrête? Lesquelles on tue, lesquelles on garde? Hein, pour la faire courte. Lesquelles on tue, lesquelles on garde? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, je ne me permets pas de juger, parce que c'est tellement complexe. Et je n'ai pas de réponse, et vous n'en avez pas. Donc, il ne faut pas se permettre de juger un truc qui existe depuis des milliards d'années. Qu'on l'étudie, je veux bien. Qu'on l'étudie, je veux bien. Qu'on en discute, je veux bien. Mais qu'on prenne des positions extrêmes en disant non, il faut tuer tous les loups, il faut tuer les ours, voilà. Ça veut dire qu'on coupe la prédation à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on se permet de juger un système qui s'est mis en place. Dieu ou tout ce que vous voulez, qui s'est mis en place, c'est un constat. Avec tout ça, ça vit en équilibre, parce que j'arrive pas à trouver d'autres mots, ça vous est. Donc à quel moment, on en revient toujours à l'homme, si on limite cette prédation. À quel niveau on limite cette prédation?
Je pense qu'on la limite au niveau où on a la possibilité. Moi, ce que j'entends dans ton discours, là, c'est qu'il y a une confusion entre le droit et le pouvoir. Comment ça? Là, tu sembles dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de solution globale pour régler le problème de la prédation qu'on n'a donc pas le droit de le faire.
Mais on a la solution.
Il y a des cas.
On a la solution, on tue tous les animaux sauvages.
Mais tu sais bien que c'est pas une solution, ça vous tire une catastrophe.
C'est pas une solution.
Oui, mais alors où tu veux en venir, je comprends pas là. Tu mets en cause la prédation et en même temps tu veux pas qu'on la supprime.
Peut-être qu'il y a deux vues différentes aussi. Je pense que ce soit toi, Guy ou monsieur, vous nous parlez souvent d'équilibre dans la nature. Moi, je ne comprends pas. Si la nature n'est pas équilibrée, je ne comprends pas qu'on puisse se dire. Je pense que le mot n'est pas approprié. Comme tout à l'heure, monsieur ne voulait pas qu'on parle d'environnement. On ne peut pas parler d'équilibre parce que c'est parler d'un cycle, d'un système naturel qui est parfait et qui fonctionne comme ça et qui n'a rien fait. Alors que, en fin de compte, tout ça.
Laisse-moi finir.
Je te dis, laisse-moi finir. Et quand maintenant, quand on voit comment est apparu différentes formes de vie, tout ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est que du déséquilibre. C'est que des extinctions et c'est que du déséquilibre constamment. Donc, quand on dit c'est comme ça depuis des milliards d'années, je pense que déjà, on se met en faux parce que c'est pas comme ça depuis des milliards d'années, c'est pas vrai. Donc, il y a cette question d'équilibre, je pense qu'il faut, il faut l'enlever. Et puis après, moi, enfin, sur la question de la prédation, je pense qu'il y a beaucoup de sentimentalité là derrière et de symbolique parce que ces prédateurs ont disparu et en même temps c'est des animaux qui reflètent une certaine force, une certaine puissance alors que moi je suis d'accord, je pense que dans certains points la prédation pourrait être abolie. Mais c'est vrai qu'après on ne peut pas aller à tous les niveaux, mais je pense qu'il y a des moments où on peut se poser la question en effet du besoin de la prédation.
J'espère que tu es conscient que si tu abolis la prédation, ça veut dire on se donne le droit de tuer des prédateurs.
Non, c'est que...
Comment tu fais autrement ?
C'est déjà se poser la question sur l'utilité de la prédation et voir en effet si c'est mieux de réintroduire des espèces prédatrices que de gérer autrement la surpopulation.
Sur un plan purement matériel, c'est vachement plus pratique et ça nous coûtera moins cher.
C'est pas sûr.
Oh, si. Parce que de stériliser des milliers de cerfs...
L'équilibre existe dans la nature. Chaque biosystème est en équilibre. C'est un équilibre dynamique. Comme vous, quand vous marchez, vous êtes en équilibre quand vous marchez. Pourtant, vous êtes toujours en déséquilibre à part. Mais si vous supprimez un prédateur, mais on a tort de parler des mammifères. Bien sûr, ça soulève tout de suite, quand on parle du loup et de l'ours, tout de suite, ça soulève des montagnes. Et vous pouvez aller dans votre jardin, si les coccinelles ne mangent pas les pucerons, vous avez rapidement un déséquilibre.
Mais parce qu'on
veut garder, c'est ça qu'on appelle un déséquilibre.
On veut garder l'équilibre précédent.
Si vous approchez le pied, vous vous cassez la gueule.
On n'accepte pas de perdre un équilibre qu'on connaît, sur lequel on a nos références.
Mais non. L'équilibre dans la nature, il existe.
Non, ça n'existe pas. C'est tout basé sur des
équilibres. C'est un équilibre dynamique.
Il est dynamique.
C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Quand vous vous accrochez le pied en marchant, vous vous cassez la figure. Mais quand vous posez votre pied devant vous, vous marchez. Vous êtes en équilibre. Mais c'est un équilibre dynamique.
C'est en mouvement.
Eh bien, l'équilibre qu'a produit l'évolution sur la Terre, c'est un équilibre. C'est un équilibre qui met du temps, qui est sans cesse en déséquilibre, si vous voulez. Vous avez des populations, c'est bien connu, l'histoire des populations de papillons qui étaient de préférence noires dans le pays de Galles, parce qu'il y avait des... et puis quand les mines de charbon ont disparu, la population noire a laissé petit à petit la population blanche, mais ça n'empêche pas que c'est un équilibre.
On pourrait très bien arriver à un équilibre avec moins de prédation.
Non, je ne comprends pas. L'ensemble, on ne peut pas parler que d'une organisation, ça serait faire du déterminisme. Mais il est certain que depuis que la vie existe sur la Terre, elle ne se propage et elle n'évolue que parce qu'il y a de la prédation. C'est évident. S'il n'y a pas des populations...
Je pense qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont propagées parce qu'il y avait de la coopération.
Mais non.
Ah mais si. On focalise sur la prédation, c'est pas vrai.
Il ne faut pas faire de discussion, de dialogue. Ce que je propose, c'est que là, dans 10 minutes, on fasse une pause cigarette, entre autres. Sinon, et puis, il ne faut pas oublier que là, sur la question écologie et question animale, on aurait quand même pas mal d'autres sujets à aborder que ce sujet-là. Moi, je voulais donner un peu mon point de vue sur ces histoires de prédation. Parce que je pense que si dans les milieux écolos en particulier, il y a une difficulté à prendre en compte l'intérêt des animaux en tant qu'individus, ce qu'ils ressentent et tout ça, c'est quand même beaucoup lié à l'idéologie naturaliste, que moi j'appelle l'idéologie naturaliste, c'est-à-dire cette représentation du monde qu'on se fait comme étant un ordre naturel, où les choses naturelles, il y a des choses naturelles qui ont leur place, qui jouent leur rôle dans la totalité. La totalité, elle est investie de valeur, elle est un peu sacralisée en fait, un peu divinisée, prise comme modèle, etc. C'est une puissance, alors on a un rapport à cette puissance, bon, un peu comme dans les rapports religieux ou mystiques. Et que du coup, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais très rapidement, que les parties de la totalité, à ce moment-là, ne sont plus prises en compte pour elles-mêmes, mais uniquement en tant que fonctionnelles par rapport à la totalité. C'est ce qu'on retrouve dans les systèmes totalitaires, dans les systèmes de pensée totalitaires, dans les systèmes sociaux de pensée totalitaire. Je veux dire, les systèmes politiques qui focalisaient sur la société, le corps social, en tant qu'ayant de la valeur, c'était des systèmes politiques qui niaient en fait toute valeur individuelle aux individus qui composaient cette société-là. Ils n'étaient que de pure fonction au service de l'ordre, et l'ordre prenait un grand haut. Et c'était aussi des systèmes qui, il me semble, qui ont toujours accordé énormément d'importance aux outils de répression, et qui ont, qui de fait, de façon très pratique, ont causé des dégâts énormes dans leur propre population. Et moi, j'ai toujours été frappé que, par exemple, les milieux d'extrême droite, mais il y a d'autres, on trouve aux autres extrêmes à peu près le même phénomène, ont toujours focalisé sur les fonctions de répression. Je veux dire, les gens d'extrême droite, ils aiment bien les uniformes, ils aiment bien la police, ils aiment bien le corps d'armée. Et en même temps, ils n'ont que le mot d'ordre à la bouche. Et j'ai l'impression que dans la tête, ils veulent se référer à quelque chose d'imposant, de fort, d'une puissance. Et qu'en même temps, ce qui va donner de l'importance à cette puissance, c'est un peu la férocité de cet ordre, son caractère cruel, indifférent. C'est ce hiatus qu'il va y avoir entre l'ordre, son importance, et la non-importance des petites parties composantes. Et j'ai l'impression qu'au niveau symbolique, indépendamment du rôle réel, effectif, que joue la prédation au sein du monde, j'ai l'impression qu'au niveau symbolique, la prédation, elle joue ce rôle-là dans notre imaginaire par rapport à cette idée de totalité, de nature, que on va exalter le caractère magnifique et impitoyable de telle prédation, la magnificence et la cruauté de je sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les publications. Et j'ai l'impression qu'on a un peu le même ressort psychologique. Et que de fait, quand on parle d'intervenir dans la nature par rapport à la prédation, ça soulève un peu un tollé de protestation. Alors que si on parle d'intervenir sur d'autres problèmes, ça peut être des problèmes plus ponctuels comme des famines ou des sécheresses ou des épidémies, ou ça peut être des problèmes plus de fond comme utiliser les possibilités qu'ont acquises les humains, par exemple en termes de médicaux, pour essayer d'enrayer des maladies dont souffrent des animaux, ce qui est bien une intervention dans l'ordre naturel des choses, entre guillemets. Enfin, moi je ne crois pas à l'ordre naturel des choses, mais on n'a pas les mêmes réactions, et je pense parce que la portée symbolique de l'idée de prédation par rapport à cette idée de totalité est vachement importante. Ça, c'est indépendant de la question pratique de qu'est-ce que ça signifie effectivement vouloir empêcher la prédation. Moi, je sais que j'ai vraiment le sentiment que poser le problème de la prédation, ça peut permettre à plein de gens de enfin s'ouvrir au fait que les animaux sont des êtres sensibles et qu'ils ne sont pas que des fonctions au sein de l'ordre naturel, et qu'on peut les prendre en compte pour eux-mêmes. Alors que sinon, c'est une sorte de verrou mental.
Je peux te répondre la même chose dans la première partie de ta réponse. Hein. Vous avez du mal à admettre qu'on puisse aimer des animaux sauvages.
Mais non.
Vous avez du mal à l'admettre.
Pas du tout. Mais pas du tout.
Je ne vous suis pas.
Moi, je comprends pas pourquoi tu dis qu'on a du mal à la cause. On a peu parlé à ce niveau-là.
Je comprends pas. Non, à chaque fois, il part dans des délires en disant qu'on idéalise la nature. Je n'idéalise pas. J'ai quand même bien le droit. Je dis, je constate que la nature était comme ça. Elle est comme ça. Le peu qu'on connaisse. Hein, en mettant de l'humilité, le peu qu'on connaisse avec les études naturalistes, on sait que ça fonctionne à peu près comme ça, il ne faut pas non plus dire que ça fonctionne comme ça, c'est parfait. C'est un constat, encore une fois. On constate que la nature fonctionne comme ça. On a le droit de faire des constats avec vous ?
Moi, c'est un constat que je partage.
Si on constate que la nature est comme ça,
on est quand même obligé, j'espère que vous êtes réveillé là-dessus. Oui, oui. Non, non, mais quand je dis vous, c'est à tout le groupe, à tout le monde, quoi. On est quand même obligé de constater que l'impact humain a une répercussion énorme, surtout sur la faune sauvage. Moi, tout à l'heure, je vous disais, j'aime les loups, les chats, etc. Moi, ça m'emmerde de savoir qu'il y a 10 millions de chats, alors que le vrai de vrai chat sauvage, le chat arrêt, il n'y en a plus que quelques dizaines, quelques centaines. Ça m'emmerde uniquement sur le plan affectif. Puisqu'à chaque fois, vous dites, on est des naturalistes, nous, c'est... Non, non, ça m'emmerde sur le plan affectif. Moi, j'aimerais bien mourir en ayant vu notre vrai chat sauvage. Alors que des chats domestiques, je peux en voir 10 millions dans ce pays. Ça m'emmerde sur le plan affectif. Ça m'emmerde sur le plan affectif de savoir que je vais mourir sans avoir vu les ours des Pyrénées. Parce que pour moi, l'ours, c'est merveille. Et je l'observe non pas en tant que prédateur, puisque ce n'est pas un prédateur. Ça m'embête aussi de savoir qu'on réintroduit des loups, des pays d'Est. Mais je parle toujours du côté affectif. Ne me faites pas dire encore une fois ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais idéalisé la nature. La nature est d'ailleurs impitoyable. C'est quelque chose d'horrible. Hein. Croyez-moi, hein, c'est niche écologique, c'est des bagarres sanglantes. Hein. La prédation, justement, la prédation, elle est à tout niveau, du brin d'herbe jusqu'en haut de la chaîne. Donc, comment juger ça? Pourquoi juger? Comment juger? Quelles sont les solutions? Les solutions sont horriblement complexes. Elles ne sont pas à la portée de l'homme. Sûrement pas.
Si on prend le problème.
Sûrement pas à la portée de l'humain. Donc, par pitié, ne cassons pas l'équilibre. Merde, le mot vous emmerde, tant pis. Ne cassons pas cette espèce d'équilibre dynamique. J'aime bien le terme dynamique. Quoi. Arrêtons de jouer avec ce truc.
Moi, ce qui me dit sur le plan, sur la prédation, c'est plutôt justement au niveau des intérêts individuels des animaux. Et dans l'exemple qu'il vient de donner, vraiment, entre un chat chasseur dans un milieu en dehors d'un milieu humain et un chat eunuque en prison dans un appartement, au niveau de l'intérêt individuel, il n'y a pas photo. Enfin, je ne sais pas, là, c'est aussi assez simple. Et que c'est un vrai problème, justement. Moi, je n'ai pas de solution.
Est-ce que le chien...
Tu as fini ou tu...
Oui.
Nadine, tu voulais poser?
Oui, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Ça veut dire quoi? Que en fait, ça veut dire quoi? Que le chat...
ce qui me pose problème aussi, c'est qui va juger des intérêts individuels des animaux aussi? Enfin, c'est ça aussi le problème. Alors, dans le cas de plein de formes d'élevage, de l'abattage pour la viande, de l'abattage, c'est évident.
Là, on peut agir.
Par contre, la gestion positive du bonheur des animaux, enfin, voilà, ou même dans ton exposé, quand tu dis même aussi travailler à améliorer les conditions de certaines espèces, là, on est dans un phénomène de gestion dans laquelle les autres espèces sont infantilisées. Ton cas rentre dans notre domaine d'action, on doit agir pour leur bonheur. Et ça me semble un peu dangereux. Ouais,
Oui,
Oui,
c'est
fini. Mais au niveau des intérêts individuels, des animaux, du coup, au niveau de.
Ce que je voulais dire par rapport à l'équilibre, c'est que. L'équilibre naturel, moi c'est justement une question que je me pose, est-ce que quoi ça correspond, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Et en fait, quand vous avez parlé de cette île qui est donc la migraine des loups, en fait, j'ai réalisé que même s'il existe cet équilibre, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça n'empêche pas que les graines vont. Ça n'empêche pas la souffrance en fait. C'est-à-dire que. Que ce soit un équilibre précaire qui va ensuite, même si on, sans intervention de l'homme, cet équilibre qui s'est trouvé là entre le loup et le renne, il va aboutir à autre chose, à un déséquilibre à un moment donné, parce qu'il y aura un autre élément, je ne sais pas, une dragon, qui va faire un truc, et quoi. Donc que ce soit un équilibre qui se maintienne pendant des millions et des millions d'années, c'est pas vraiment la question de savoir. Enfin, je veux dire, même s'il y avait un équilibre naturel, même s'il y avait un ordre naturel, ça ne voudrait pas dire que. Il faut quand même le remettre en cause. Que
c'est l'anthropocentrisme.
C'est-à-dire qu'en fait, dans cet équilibre entre les loups et les rennes, c'est pas parce que c'est un équilibre que c'est. Enfin, dans cet équilibre-là, il y a souffrance, il y a mort, il y a ennui, il y a.
Il y a nature.
Voilà. Ouais, voilà, que ce soit.
Je peux te poser une question immédiate. Ça te dérangerait pas que des gens comme moi se suicident?
Ça ne me dérangerait pas que des gens comme moi se suicident.
Voilà, je vais te la faire simple, tu veux tuer mon jouet, donc ça ne me dérange pas que je meure. Quoi.
Mais ça, c'est du chantage.
Ouais,
excusez-moi, je l'ai fait trop simple.
C'est ton problème. Il y avait David qui l'a fait avant. David ?
Non, mais ça me dérangerait que dans cet équilibre naturel entre le loup et le renne, le loup, l'intérêt du loup n'est pas moins important que l'intérêt du renne.
Oui, absolument. Donc, de quel droit juge-t-on un équilibre dont personne n'est foutu de dire quelle est la moyenne ?
Je ne sais pas si je le juge. En fait, je comprends bien sur le problème, la souffrance, et je n'apporte pas une solution pour que ce soit l'autre, mais je crois que
tout souffre. Tout souffre, hein. La mésange, quand elle se fait bouffer par les fermiers, elle souffre. Hein. Le petit ver qui se fait bouffer par la mésange, il souffre. Le brin d'herbe qui est arraché par la vache, peut-être qu'il souffre, d'accord, il n'a pas de
souffrance. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi ça serait une justification, que ce soit comptable avec la mort. Moi, je sais que je vais mourir un jour. Oui. Franchement, ça me fait chier. Je ne suis pas consolée.
Moi aussi, ça m'en fait.
Je ne suis pas consolée du fait que c'est comme ça que là, du coup, alors là, c'est pas la vie, il n'y a rien à voir. Il y en a qui pensent. Voilà, c'est pas parce que c'est comme ça. C'est parce que, alors d'accord, la vie est cruelle. Il y a certaines cruautés sur lesquelles on peut avoir une action, comme par exemple. Empêcher les loups qui sont déjà plus tuer la chouris ou empêcher. Il y a tellement de choses sur lesquelles on n'est pas d'impact, mais c'est pas parce que je veux pas avoir d'impact sur par exemple d'un proche mort ou d'un mort des gens que j'aime que je me dis ah bon, vous avez donc.
Non, il y a quelque chose que tu as du mal à intégrer, c'est que tout est cruel dans la nature. Il n'y a pas deux animaux qui sont des
animaux.
Bon,
je reprends les tours de parole, la reconnaissance des végétariens.
85%.
Tu voulais causer,
toi ?
Hein ? Oui. Simplement, c'est pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, que, par rapport à tu as dit pour juger la prédation, oui, mais à quel niveau ? Et tu as posé des questions qui sont tout à fait pertinentes, à savoir que. Si on veut tuer ou en tout cas laisser disparaître ou par un moyen moins violent les aigles, il va y avoir les mésanges qui vont avoir une certaine population. Ah oui, mais les mésanges elles bouffent les insectes. Ah oui, mais les insectes bouffés ou les mésanges bouffent les araignées qui bouffent. Bon, et quel niveau on arrête. Bon, je pense que là il y a un problème de savoir quels sont. Comment est-ce exactement on forme un jugement moral sur ce genre de problème ? Comment est-ce que exactement on juge l'importance de la mort par rapport à l'importance du plaisir à vivre, par rapport à l'importance de la souffrance ? Comment exactement est-ce qu'on sait, est-ce qu'une araignée peut souffrir ? Est-ce que... Donc tu as tout à fait raison de dire que c'est des questions auxquelles on n'a pas des réponses très précises. Mais il n'y a pas que ça comme question auquel on n'a pas de réponse très précise. Je veux dire que moi je suis tout à fait contre le sida. J'ai aucune solution pour faire disparaître le sida, quoi. Mais ça me paraît important de dire que je suis contre le sida. Et non, simplement par le fait de dire que je suis contre le sida, je me différencie de quelqu'un qui dirait ah ouais, le sida c'est super, ça régule les populations humaines, ouais, c'est merveilleux. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a une différence d'attitude, et je pense que cette différence d'attitude, même si elle n'est pas productrice dans le court terme de possibilités d'action ou même de certitude sur quel genre d'action on pourrait pouvoir préconiser, cette différence d'attitude, à terme, elle peut être productrice. Elle peut être productrice, la possibilité, effectivement, à terme, de trouver des solutions, de comprendre exactement ce qu'on devrait faire pour faire baisser le sida. Il y a même des idées de bon mot là-dedans. Il y a le fait que ça a été calculé que si quelqu'un est séropositif,
vaut mieux qu'il meure très vite. C'est-à-dire qu'il attrape, qu'il devienne malade du sida très vite, parce que comme ça, il y a statistiquement moins de chances qu'il transmette le virus à quelqu'un d'autre. Et que donc, on pourrait souhaiter, est-ce qu'il faut souhaiter que les gens qui sont séropositifs meurent le plus vite possible ? On n'a pas envie non plus. C'est-à-dire qu'on a des contradictions. Mais le fait d'avoir des contradictions, ça n'interdit pas que face à quelque chose qui est une saloperie qui s'appelle le sida, eh ben, je trouve que c'est important de dire qu'on est contre. Et que quand on nous dit, comme tu as dit tout à l'heure, ah, vous êtes contre la prédation, mais on ne peut pas être contre la prédation parce qu'on n'a pas la réponse. Là, pour le coup, j'ai envie de te dire que tu as une attitude par rapport aux idées qui est une attitude supermarché, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque idée, il faudrait qu'il y ait sa réponse, sinon l'idée ne peut pas exister. Le monde, il n'est pas fait comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions, qu'on peut poser publiquement pour lancer au public, à l'Assemblée, à nous tous, qui devrions essayer de collaborer au maximum, à se dire, ben oui, là, il y a une question, moi, j'ai pas la réponse, les amis, cherchons la réponse, ou au moins gardons cette question, au moins admettons qu'il y a là un problème. Et les personnes d'entre vous qui êtes de sensibilité écologiste, naturaliste, moi, je serais très content, pas si vous partez d'ici en disant demain matin, oui, on va tuer tous les prédateurs, parce que moi-même, j'ai pas envie de... En tout cas, ça ne me ferait pas plaisir. Je ne sais pas si ce serait juste ou injuste ou pas d'avoir cette idée, mais certainement, ça ne me ferait pas plaisir. Moi, j'ai pas de haine pour les goûts. Mais ce que je serais content, c'est si vous partiez en vous disant la prédation, c'est un problème. C'est un problème, c'est quelque chose qui crée une souffrance, et c'est quelque chose que j'aimerais garder quelque part dans un coin de votre tête, que c'est pas totalement aberrant de se dire que c'est un problème et qu'on aimerait bien qu'un jour ce cycle terrible de souffrance s'arrête ou s'amenuise, ou qu'on ait de la sympathie pour le désir de la souris d'échapper au chat, qu'on ait de la sympathie pour qu'un jour, peut-être, les chats cessent d'attraper les souris et cessent de les torturer. Et voilà, quoi.
Peut-être.
Enfin, je ne sais pas si c'est clair, quand je dis attitude de supermarché par vos idées, c'est que moi, j'ai envie de pouvoir poser des questions sans avoir à côté l'étiquette dessous qui dit quel est le prix à payer, quel est le... Je ne sais pas, quoi.
Oui, moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez essayé quelquefois d'élever un jeune poussin d'un rapace nocturne? Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai appris au dépens de ma sensibilité et au dépens des rapaces en question, qu'élever une jeune chevêche sans lui donner des rats entiers, c'est le condamner à mort. Lui donner de la viande simplement, ou la salade verte, je n'ai pas essayé, mais de la viande, et vous condamnez le poussin à mort. Il faut qu'il mange des musaraignes, des souris, avec la peau, de façon à faire sa boulette de réjection. Et s'il ne le fait pas, eh bien il manque des éléments indispensables au développement de son squelette, et en quelques jours, vous voyez ses pattes se ratatiner, et il meurt. Ceci pour dire que, je l'ai déjà dit hier, le maître mot de la vie, c'est l'homéostasie. Chaque individu, de chaque espèce vivante, depuis l'amibe jusqu'à l'homme, jusqu'aux mammifères, on parle trop des mammifères, c'est ce qui nous fait parler notre sensibilité. Chacun des individus de cette espèce est mené par un ensemble de conduites inconscientes et conscientes à maintenir l'équilibre de sa vie. Je l'ai dit pour l'amibe, si l'interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, c'est-à-dire l'enveloppe qui contient l'unicellulaire, est poreuse, le milieu interne change et elle meurt. Vous, mammifères, si votre température intérieure varie de quelques degrés en plus ou en moins de 37,5, vous mourrez. Et votre inconscient, comme votre conscient, l'ensemble de votre système nerveux, est là pour contrôler à la fois, c'est beaucoup plus compliqué pour les hommes, bien sûr, parce qu'il y a toute une sensibilité et tout un, une conscience de soi qui date de la naissance qui complique la chose. Mais l'essentiel pour votre système nerveux, c'est de maintenir cette homéostasie. Et si vous ne la maintenez pas, vous n'êtes plus vivant, c'est tout. Et les mécanismes pour maintenir l'homéostasie, ils sont différents pour chaque espèce vivante. Et si pour un rapace, vous ne lui donnez pas les éléments pour se nourrir, il meurt. Et vous, si vous ne mangez pas, si vous ne maintenez pas votre température à un certain degré, et si vous n'avez pas les aliments nécessaires pour fabriquer l'aliment du muscle qui vous permet de vivre, vous mourrez. C'est tout simple. C'est plus compliqué pour l'homme parce que si en plus vous n'avez pas la vision en traversant la rue, vous prenez une voiture dans le dos, vous mourrez aussi. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est exactement ça. Et chaque espèce a sa régulation interne, je répète, inconsciente et consciente, les deux sont mêlés, qui fait qu'on maintient cette homéostasie et qu'on se maintient en vie. Quand on ne la maintient plus, on meurt. C'est tout. Et les prédateurs, enfin on a peut-être tort de dire les prédateurs, mais ils ont besoin de manger de la viande, comme le puce de la coccinelle a mangé besoin de manger des pucerons. Si elle ne mange pas des pucerons, elle ne maintient pas l'homéostasie, elle meurt. Voilà, c'est tout. L'équilibre, la nature, c'est ça.
On fait la pause là maintenant, non? Et on reprend dans 5 minutes. Et on fait des petits groupes dans 5 minutes, ça va? Ça vous va? On fait plusieurs petits groupes. Et bien ça dure le temps que ça dure en fait.
Bon, on n'est pas fumé à l'intérieur, ça
fait des groupes. Et d'autre part, il y a des chances, il faut arriver.
Et pour supprimer des clients que j'avais annoncés
la récupération de la Voir les
les gazelles, puis je sais qu'il y avait des monstres.
C'est gentil, ce chien.
Oui, oui, je suis gentil. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. Hop, il peut commencer à me dire.
Il parlait de l'eau.
C'est ça, je veux être sûr. Comme il est fou.
Moi, il y a des choses que je comprends. Dans le complet et la réalité, c'est
De la même manière que les reste arrêté les musiques en lyrique, les jeunes analogistes, c'est un truc de force, de la manière, on a constaté, pour ça, c'est pas compliqué, je pense que c'est une personne qui donc, je vais pas mettre en plus la souci à mon départ, je vois que c'est un sujet positif.
Petit poil lumineux qui filait.
Il pouvait faire des courses, il ne pouvait pas faire des courses.
c'est une complexité c'est passionnant.
Et bien en fait, il semble qu'il y ait des petits groupes à l'extérieur et qu'ici ça peut être un groupe plus conséquent.
D'accord. Est-ce que là vous pouvez
Il faut demander. Voilà comment ça s'organise en fait.
D'accord.
T'as qu'à commencer à parler, tu dis n'importe quoi, tu dis blablabla, et puis... Ça va venir les gens.
Par du